faut distinguer les sphères. Hein. Le public, c'est les hommes. Le privé, c'est les femmes.
Matrioshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Femmes et hommes, bienvenue dans ce Matrioshka dédié à la merveilleuse militante féministe et historienne Michèle Perrot. Matrioshka, vous savez, ce sont ces poupées russes emboîtées les unes dans les autres, de la plus grande, la plus ancienne, à la plus petite, la plus jeune. Mais alors, qu'est-ce qu'elles se sont transmises, ces poupées? Qu'est-ce qu'elles se sont transmises, les femmes, dans l'histoire? Quelle place se sont-elles accordées dans l'histoire, sur la scène politique, dans la sphère publique? Eh bien, nous allons le retracer, cela, avec Michèle Perrot aujourd'hui, elle qui a largement participé à rendre les femmes visibles, à leur accorder une place dans les manuels d'histoire, ce qui n'était pas du tout gagné, elle qui a co-dirigé les 5 tomes de l'histoire des femmes en Occident, qui est un best-seller qui a été traduit dans de nombreuses langues. Alors, on va lui poser quelques questions à Michèle Perrot. Pourquoi est-ce que plus de la moitié de l'humanité, nous, les 52% de femmes dans l'humanité, sommes restés dans l'ombre? Chers messieurs, ne partez pas, on va aussi parler de vous. Pourquoi cette domination masculine? Pourquoi les femmes à la maison, en faire valoir, et les hommes sur la place du bourg pour faire pouvoir? Pourquoi, Michèle Perrot, pourquoi ça s'est organisé comme ça? Elle nous dit.
Je reviens un instant en arrière sur cette distinction du privé et du public. C'était un moyen pour d'organiser la société après la Révolution, hein, après les révolutions anglaises, françaises, américaines. La société est quand même discrètement et lentement en marche vers la démocratie. Et l'idée de l'époque, c'était faut distinguer les sphères. Hein. Le public, c'est les hommes. Le privé, c'est les femmes. Voilà. Et puis que chaque sexe œuvre, travaille, se développe dans sa propre sphère. Alors, la sphère publique était donc, en somme, interdite aux femmes. Hein. C'était vraiment la sphère de la création, la sphère de la politique, etc. C'est pourquoi les femmes, au fond, les femmes se sont battues pour passer les frontières. Il fallait passer les frontières à tout point de vue. La frontière de l'instruction, la frontière de la création, la frontière de la procréation, la frontière politique. Acquérir le droit de vote. Quand même, quand on pense que les femmes en France ne l'ont qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en 44-45. Alors, cette sphère publique, maintenant, les femmes l'investissent. Elles l'investissent non seulement pour faire comme les hommes, mais elles l'investissent aussi pour que leurs propres droits avancent. Le privé est politique, disaient les femmes du mouvement de libération des femmes des années 70. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes ne peuvent pas faire n'importe quoi dans le privé. C'est pas sous prétexte que c'est privé, bah, autrefois, un homme battait sa femme. Vous savez, on disait, l'homme, il est maître de l'intérieur, c'est la femme qui œuvre, mais c'est l'homme qui fait la loi. Il y avait quand même cette idée que le privé, l'État n'a pas à y voir. L'idée que l'État, avec sa loi, peut intervenir pour faire respecter une éducation sans coup, qu'un homme n'a pas le droit de battre sa femme, que le viol est quelque chose d'absolument impossible, c'est un crime, le viol. Les femmes se sont beaucoup battues pour ça.
Structurellement, pourquoi il y a ce rapport de domination de l'homme sur la femme? Pourquoi, après tout?
Les préhistoriens sont très intéressés par cette question, de plus en plus. Ils travaillent là-dessus. L'idée de Françoise Héritier, je ne fais que reprendre ce qu'elle dit, c'est que les femmes sont d'abord un ventre. Hein. Elles sont le ventre, le vase, comme on disait autrefois, de la reproduction. Sans femme, pas d'enfant. Et c'est quelque chose dont les hommes se sont sans doute, évidemment, rendus compte. Et du coup, garder les femmes, avoir les femmes, posséder des femmes, hein, pour pouvoir se retransmettre, continuer. Donc, c'est peut-être ça qui est à la racine des choses.
Donc, il y a la sphère privée pour les filles, on l'a compris, et la sphère publique pour les garçons. Très bien. Mais alors, comment est-ce que les filles parviennent à mettre le nez dehors, à passer le pas de la porte? Quel chemin empruntent-elles? Eh bien, elles ont emprunté celui de l'école. L'éducation, me direz-vous. Oui, mais il n'y a pas d'évidence à ça. Michel Perrot fait bien le distinguo. Il y a l'éducation, qui est pour les filles, et il y a l'instruction, qui est pour les garçons. Et vous allez comprendre, c'est pas la même chose.
L'éducation, si on veut la définir, c'est plutôt les manières d'être, hein, les manières d'être au quotidien, les pratiques qui passent par le corps, le regard, les gestes quotidiens. Hein. Cela, on l'a induqué, on l'a inculqué aux femmes. Hein. Une mère enseigne à sa fille comment être une bonne mère, une bonne ménagère, une bonne femme. Traditionnellement, c'était comme ça.
Voilà, les secrets de bonne femme.
Voilà, bonne femme, à travers le temps. Hein. L'instruction, c'est autre chose. C'est l'idée des connaissances. Bien entendu, instruire, c'est transmettre aussi. Hein. Mais il y a quelque chose de plus abstrait dans l'instruction. Et pendant très longtemps, c'était les garçons.
Ce que j'entends au travers de ce que vous dites, c'est qu'on éduquait les filles à maîtriser l'intérieur, on instruisait les hommes à penser le monde, à comprendre l'extérieur, la vie, la sphère publique.
Oui.
Pourquoi soudainement, finalement, les petites filles commencent à aller à l'école primaire, puis au lycée? En quoi ça intéresse la société? En quoi on va servir? Parce qu'après tout, tout ça n'est que dans un rapport utilitaire. Pourquoi nous apprendre à lire, nous apprendre à écrire?
On a commencé à apprendre à lire et aux petites filles, à lire et à écrire, depuis le XVIIIe siècle, dans des écoles religieuses. Et puis arrive la Troisième République, 1870. 10 ans après, Jules Ferry. Et Jules Ferry dit, mais il faut que les filles apprennent à lire et à écrire. Autrement, c'est l'Église qui va dominer les filles. Et il y avait, à cette époque-là, en France, puisque nous parlons de la France, une lutte considérable entre l'Église et la République. La République était laïque et l'Église ne voulait pas de la laïcité. Par conséquent...
Plus le maître contre le curé que la défense des femmes, quoi.
Oh oui, au point de départ, c'est vrai. On pense les femmes dans la transmission, et par conséquent, il faut des femmes laïques, et pour être de bonnes mères, laïques, et comme disait Jules Ferry, il nous faut de bonnes compagnes. Pour un homme laïque, une femme qui passe son temps à l'église, ça va pas quand même. Hein. Autrement dit, ça jouait un très grand rôle. C'est pas pour rien que Jules Ferry, qui est un grand républicain laïque, hein, a créé l'école primaire, obligatoire, laïque, pour les deux sexes, dans les années 1881 à peu près. Bien entendu, garçons et filles devaient être séparés.
D'accord.
Aux filles, on va pas leur faire faire beaucoup de mathématiques, c'est pas la peine, elles n'en ont pas besoin. On va plutôt leur faire faire de la couture aussi. Hein. Et puis les garçons, on leur fera faire davantage de gymnastique, voire d'exercice militaire. Les filles ne passaient pas le baccalauréat, par exemple. Elles passaient un brevet supérieur, hein, qui était déjà assez calé du point de vue secondaire, mais pas le bac. Ce n'est qu'en 1924, c'est-à-dire dans le siècle dernier, dans le XXe siècle, que les filles ont passé enfin le même baccalauréat que les garçons, 1924. Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce que le baccalauréat, ça permet l'entrée dans l'université. Hein. Alors, il y avait quelques étudiantes déjà, mais il y avait des étudiantes très peu nombreuses, il y en avait peut-être 5-6%. Et c'était un petit peu par effraction, par permission spéciale, etc. Le baccalauréat 1924, ça y est, elles peuvent devenir étudiantes. Et on s'aperçoit qu'il y avait un véritable besoin, un véritable désir. Les filles entrent à l'université et à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, elles forment pas loin déjà de 30% des effectifs. C'est pas à peu près un tiers. Autrement dit, elles se sont engouffrées dans la brèche, leur famille les y a poussées, généralement une moyenne bourgeoisie qui n'était pas toujours très nécessairement argentée et qui par conséquent pensait que les filles, ben, il fallait qu'elles travaillent. Voilà pourquoi on a instruit les filles.
Et donc, dans notre logique de sphère, on comprend bien que l'éducation des filles leur permet de continuer de rester à la maison, mais mieux. Et puis l'instruction des garçons leur permet d'avancer encore mieux dans la sphère publique et d'avoir des fonctions dans la cité, dans l'organisation politique. Mais donc, la liberté n'est pas gagnée-gagnée pour autant, et il y a quand même encore pas mal de terrain à conquérir. Alors oui, les filles ont commencé à glisser un soulier dehors avec Jules Ferry. Oui, 40-50 ans plus tard, 1924, elles passent le même baccalauréat que les garçons et se retrouvent à déambuler dans le Quartier Latin, à l'image de Simone de Beauvoir qui arrive même deuxième à l'agrégation en 1929. Oui, on arrive à les appeler même des étudiantes, alors qu'avant, pour l'anecdote, les étudiantes, c'était un peu les grisettes, celles qui accompagnaient les étudiants, qui étaient un petit peu leurs compagnes du jour et de la nuit. Et encore oui, en 68, elles battent le pavé au même titre que les garçons, mais peut-être qu'on les retient moins dans l'histoire. Elles défendent leur corps, elles défendent leurs droits. Il y a le mouvement MLF, le mouvement pour la libération des femmes en France. Il y a ensuite, il y a quelques années, MeToo. Mais alors, du mégaphone qu'elles portaient dans les années 70 quand elles sillonnaient les rues, à la mégatoile qu'elles ont investie depuis quelques années, est-ce que les combats féministes font que la victoire est conquise ? Réponse tout de suite.
Il y a ce lent mouvement de conquête des femmes. Dans ce mouvement continu, il y a des moments d'accélération. Ça alors absolument. Et c'est pourquoi on parle de féminisme souvent avec le mot vague. Hein, il y a des vagues féministes. Il y a des périodes où tout d'un coup, on voit les choses s'accélérer. Il y a aussi des coups d'accélération économique. Tout d'un coup, on va avoir besoin de la main-d'œuvre féminine. Donc, les femmes vont entrer dans le travail. Par exemple, quand le tertiaire commence à se développer, on commence à avoir la dactylographie, etc. On a besoin de femmes. Au début, c'est les hommes qui font ça, qui tapent à la machine et qui sont dactylos. Puis on se dit, mais les femmes, elles qui savent taper, qui savent jouer du piano, elles seront très bien taper à la machine. Hein, c'est venu du piano, la machine.
Et alors, plus récemment, au cours du XXe siècle, qu'est-ce qu'on voit encore comme coup d'accélérateur qui nous font passer à chaque fois un autre niveau ?
68. 68 est un mouvement extraordinaire, hein, de libération, de prise de parole, etc. Il est mené par des garçons et des filles. Mais on ne parle que des garçons. Ce sont les hommes qui dirigent ce mouvement. Quand on disait à l'époque à Paris, les quatre grands, Cohn-Bendit, Krivine, Sauvageau, Gesmard, c'était les quatre grands, qui montaient sur le Lion de Belfort alors qu'il y avait toutes les manifestations autour, les filles étaient là. Est-ce qu'on parlait des filles et de la condition des femmes ? Pas du tout. Alors elles se sont révoltées, elles ont dit « mais et nous ?» On en a assez de nos problèmes, on en a des problèmes. Au même moment, il y avait la même chose aux États-Unis. Oui. Mouvement de libération MLF, Women's Lib, hein, aux États-Unis. Dans les années 70, il y a des manifestations, il y a des groupes qui se créent, il y a des femmes en mouvement. Et qu'est-ce qu'elles revendiquent ? Elles revendiquent la diffusion de la contraception qu'une loi avait créée en 67. Mais attention, dans les pharmacies, quand vous alliez demander un produit contraceptif, on vous regardait de haut. Hein. C'était difficile. Donc les filles disent, il faut que la contraception, on y ait accès. Et puis, un enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux, droit à l'avortement. Ben, c'est pas rien, ça, le droit à l'avortement. Quand on voit qu'aujourd'hui, où nous sommes, aux États-Unis, un certain nombre d'États suppriment le droit à l'avortement. Quand on voit dans les États comme la Pologne la difficulté d'avoir ce droit, hein, on se rend compte que ce droit conquise par les Françaises il y a près de 50 ans, hein, grâce au mouvement des femmes et à Simone Veil, qui en a été, et à Giscard d'Estaing, il faut bien le dire aussi, qui en a été, Simone Veil, le porte-parole, eh bien, on voit que c'est une conquête difficile. Et en conquérant ce droit, les femmes ont conquis le droit à la sexualité, à une sexualité libre, hein, et elles ont commencé à mieux connaître leur corps, à avoir conscience de leur corps, à le mieux connaître aussi et en être les maîtresses, maîtresses de son corps.
Il y a les lois, mais ensuite il y a l'évolution de la société, l'application des lois, l'évolution aussi des imaginaires. Le fait qu'on n'ait pas le droit de violenter une femme, par exemple, ça date de quoi ? Des années 80, c'est ça ?
Oui,
à peu
oui,
près.
Oui.
Aujourd'hui, 40 ans après, on s'insurge contre les féminicides comme si c'était une découverte. On a 40 ans de décalage. Le fait de ne pas avoir le droit d'abuser, de violer, c'est aussi 1980. Aujourd'hui, MeToo, 20 ans, 40 ans après, on s'insurge comme si on ne le savait pas, comme s'il y avait un chemin de conscience, d'émergence de l'information, alors que la loi existe déjà. Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que ces mouvements du privé qui devient vraiment étalé sur la place publique, est-ce que ça, grâce aux réseaux sociaux, grâce à des nouveaux outils, accompagne la réorganisation de la cité sur un plan politique ?
C'est très intéressant, MeToo. C'est très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que on voit que la frontière va encore plus loin. Les femmes de MeToo, certes, elles parlent de viol, mais elles parlent aussi de harcèlement. Hein. Elles parlent du geste déplacé, elles parlent du propos infamant ou graveleux, enfin, tout ce qu'elles ont à affronter dès qu'elles sont un peu sous la coupe d'un homme, ce qui était beaucoup le cas dans le milieu du cinéma. Hein. À l'époque de MeToo, et évidemment bien avant, ce sont les producteurs tout de même, les hommes sont majoritairement, surtout à Hollywood, les producteurs de films, il n'y a pas beaucoup de femmes, et les femmes sont des actrices. C'est-à-dire que leur corps, eh bien, leur corps est à la disposition du producteur et du réalisateur pour faire tel geste, accomplir telle action, etc. Donc elles sont passives. Et les hommes, ils auraient pu se contenter de ça, c'est leur métier après tout, mais ils ont outrepasser cette frontière-là pour se les approprier pour eux. Alors, la conséquence, c'est que MeToo dit « on ne veut plus de ça ». Donc, c'est l'intime. Hein. C'est l'intime lui-même qui est maintenant géré par la loi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est étonnante et qui est liée au mouvement, aux réseaux sociaux, c'est le fait que ce n'est pas seulement des centaines de femmes. Ce n'est pas des milliers, mais des millions de femmes qui ont repris les revendications de MeToo. Et j'aime beaucoup l'expression MeToo. Hein, parce que Me, moi, l'individu, femme que je suis, tous les autres, hein, moi aussi, moi et les autres. Moi, je souffre, mais je ne suis rien sans les autres. Et ce que j'ai vécu, les autres l'ont vécu. Donc, MeToo, on est ensemble.
Vous avez l'impression que ce qui s'est passé avec MeToo, ça aide à ce cheminement du privé, alors même de l'intime, là vous dites, vers la place de la femme dans l'espace public. Est-ce que ça raconte aussi autre chose de notre cheminement ?
Ça a beaucoup de conséquences. Et il me semble qu'on le voit dans la société d'aujourd'hui. Ceci étant, je ne suis pas personnellement pour une transparence totale. Hein. Je pense qu'il faut faire attention aussi. On a droit au secret. On a droit à un intime protégé, pourvu qu'il le soit, bien entendu. Si la frontière de l'intime, c'est la permission pour les hommes de faire ce qu'ils veulent avec les femmes. Non. Et là, MeToo dit non, on ne veut plus. Mais l'intime est aussi une construction, un échange amoureux, notamment. Et là, je pense que il faut pas non plus que tout soit sur la place publique.
De fait, aujourd'hui, les femmes gagnent du terrain dans la sphère publique au point de faire entendre des sujets intimes, des sujets de la sphère privée, et de les faire reconnaître par la société, par le politique dans sa globalité. Alors, on entend bien que le féminisme avance par vagues, mais quelle est la vague de fond aujourd'hui? Quelle histoire est-on réellement en train d'écrire? Les lignes bougent, mais structurellement, qu'est-ce qui se raconte lorsqu'on voit une évolution du féminin dans le monde des hommes et de la place de la virilité dans un monde occidental aujourd'hui qui tend à s'harmoniser?
Les féministes d'aujourd'hui, dans le monde occidental, en France notamment, sont très présentes, actives. Hein. Les jeunes femmes que je rencontre m'émerveillent par leur invention, leur parole, des choses, leur audace aussi. Et par ailleurs, je pense que les hommes changent. Hein. Les jeunes hommes ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 50 ans. Par conséquent, des progrès, il y en a, et je suis relativement optimiste. D'autre part, je trouve que le monde que nous vivons est de plus en plus compliqué. Quand on voit les problèmes actuels en Europe, hein, au moment où nous parlons, un pays européen tout de même, enfin la Russie c'est quand même un pays européen, a déclaré la guerre de façon violente à l'Ukraine, hein, qu'il y a des milliers de morts à l'heure actuelle, qu'il y a des villes assiégées, c'est effrayant. C'est donc un monde dangereux, un monde complexe, hein, extrêmement complexe. Par ailleurs, c'est un monde d'une telle fluidité, où les choses changent à une telle rapidité, que nos moyens de connaissance sont sans cesse niés. Hein. On croit s'approprier quelque chose, on croit savoir, ben c'est déjà plus vrai. Il faut aller déjà ailleurs. Autrement dit, la société d'aujourd'hui est à la fois plus libre et plus contrainte.
C'est-à-dire que d'une certaine façon, tout est possible, mais rien n'est acquis.
Tout est possible et rien n'est acquis. Et il peut y avoir des retours en arrière dangereux, par exemple pour les femmes. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un retour de bâton, d'une régression. On le voit en Europe, on le voit dans le monde. On a parlé des États-Unis et du droit à l'avortement.
Quand vous glissez le sujet de la guerre dans cette complexité du monde, est-ce que pour vous, ça résonne aussi, la guerre, sur un sujet qui serait le masculin et le féminin ou pas? Est-ce que ça résonne?
Oui. La guerre est encore aujourd'hui largement masculine. Oui, les États ne sont pas tous, mais majoritairement dirigés par des hommes. Quand on regarde la guerre actuelle dont nous venons de parler, Poutine, en Russie, c'est le super héros, le super autocrate. Hein. C'est lui qui a déclenché cette guerre. Au nom d'un idéal militaire, national, extrêmement viril. Là, il se revendique de la virilité, tout à fait. Hein. Autrement dit, en effet, on n'en a pas fini avec cette représentation et cette action de la virilité qui passe par le pouvoir, par les armes, par la guerre. Voilà, ça, alors, oui.
Il est vrai que sur tous les plans aujourd'hui, les questions de domination sont chahutées, sont questionnées, et on le voit au travers de tous les mouvements dans cette complexité dont vous parlez.
Oui, on parlait de Poutine, mais regardez Trump aux États-Unis il n'y a pas si longtemps, et dont on a pu dire que Trump, c'était la revanche de l'homme blanc, c'est-à-dire les femmes ont pris trop de pouvoir, le féminisme s'est trop développé, Trump revient, hein, il remet de l'ordre, à la fois pour les hommes et pour les blancs. Contre les femmes, contre les noirs.
Et qu'est-ce qu'on peut par rapport à tout ça?
Beaucoup,
que vous dites?
Beaucoup de choses. Ce que les droits que les femmes ont aujourd'hui, elles les ont conquis, hein, absolument. Bien sûr, la société a évolué, mais la société a évolué dans ce rapport complexe entre les deux sexes. Hein. Si les femmes ne demandent pas leurs droits, elles n'en auront pas. Hein. Elles n'en auraient pas eu. Donc ça veut dire que les droits acquis, il faut les défendre, les étendre. Il faut aussi être conscient que les pays occidentaux, où ça va mieux pour les femmes qu'ailleurs, c'est quand même qu'une petite parcelle du monde. Que le monde, c'est vaste. Et qu'il y a beaucoup de pays où les femmes n'ont pas de droits. Hein, où elles sont véritablement dominées.
Mais dans ce cas, Michel Perrot, à partir du moment où on a acquis certains droits et qu'on peut avancer justement dans la sphère publique, qu'est-ce qu'on peut, nous, de plus ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez, on n'est pas là que pour se défendre. Nous, c'est
oui.
En quoi on investit le champ ? Comment vous voyez ça, vous ?
Transmettre. Il faut transmettre ces acquis que nous avons, cette réflexion lentement et longuement acquise. Il ne faut pas la laisser perdre. Il faut être capable de la transmettre à ceux qui viennent. Alors, de toutes sortes de manières. La manière privée, dans le privé, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. J'en ai, moi, bien sûr. Raconter, répondre à leurs questions, parce que très souvent, ils ont envie de savoir. Et s'ils n'ont pas envie de savoir, peut-être susciter leurs questions. Hein. Raconter des histoires, raconter notre histoire.
Il y a quelque chose qui m'a touchée là, en arrivant chez vous, et je vous le disais en préambule, mais il y a quelque chose qui me touche, c'est une sorte de paix, de douceur dans votre intérieur. Et en fait, juste avant de commencer l'entretien, je me disais, vous avez quelque chose en vous, vous portez une forme de douceur, de bienveillance. Est-ce que pour défendre, pour accompagner le mouvement des femmes, du féminisme, on peut être dans cette douceur et dans cette bienveillance, ou est-ce qu'il faut être dans un combat, avec un bras armé ?
Ah, moi, la douceur, j'aime bien quand même. Vous parliez de cet appartement, il est très habité. Et puisque vous parlez de transmission, c'est un appartement où il y a eu ma mère, par exemple. Hein. Bon, alors, ma mère qui a vécu ici, dans cet appartement, jusqu'à 98 ans. Hein. Et donc, oui, les souvenirs sont là, la douceur est là. Certainement, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Parce que j'ai eu autour de moi des gens aimants. Hein. Et les hommes de ma vie, mon père, mon compagnon, étaient au fond très féministes. Hein. Sans le mot, les théories, pas tellement, mais dans leur pratique. Alors, peut-être que moi, personnellement, j'ai pas eu tellement à me battre. Hein. J'ai souvent ce sentiment d'avoir été gratifié, hein, d'avoir eu de la chance.
Vous parlez de la façon dont vous avez avancé, et on voit aussi les féministes d'aujourd'hui qui ne sont pas façonnées de la même façon. La société est différente et le mouvement est différent, les outils sont différents. Il y a cette question de Matrioshka qui est: qu'est-ce que vous voulez transmettre finalement à nos enfants ? Mais j'ai envie de vous poser la question en la ciblant là. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à ces féministes-là ?
L'ouverture sur le monde. Voilà. Les femmes sont dans le monde. Et s'intéresser au reste du monde, ne pas rester enfermée dans sa sphère privée, même si c'est très très important. Ça me paraît quelque chose d'essentiel, parce que ça va être générateur de curiosité, de voyage, d'études, d'attention à l'autre, d'accueil à l'autre. D'un autre côté, je dirais que le privé est important. Bien sûr, le privé est important. Le droit au bonheur existe. Hein. Et les femmes ont droit à revendiquer le bonheur pour les leurs et pour elles-mêmes. Donc, il y a une double revendication, si vous voulez. Moi, chez moi, les miens, le droit à l'enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux. Et puis, l'ouverture au monde, parce qu'il faut... Il faut prendre conscience du monde, savoir qu'on est traversé par le monde, qu'on ne peut se comprendre qu'avec lui, et que la société fluide est de plus en plus solidaire. Elle l'est, même si elle ne le veut pas. Hein. Ce qui se passe très loin de moi va avoir de l'influence sur moi. Et ce que je fais moi, mes responsabilités, je ne sais pas, dans l'énergie, la consommation, ça a des influences sur les autres. Le monde fluide est un monde solidaire. Cette solidarité, il faut la porter et y travailler.
Alors on continue. Oui, tout est possible, rien n'est acquis. Merci infiniment, Michel Perrot, de nous avoir accordé ce merveilleux entretien pour Matrioshka. On continuera à poursuivre votre action pour la visibilité des femmes et l'équilibre entre le féminin et le masculin dans l'histoire qu'on écrit et dans ce qu'on transmet à nos enfants. Merci à vous de suivre tous nos entretiens de Matrioshka, d'être de plus en plus nombreux. Alors, on sait, vous êtes très nombreux à le faire sans vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, continuez à commenter, à faire connaître la chaîne Matrioshka. Et puis, n'oubliez pas de suivre nos réseaux sociaux sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, évidemment, et sur notre site internet matrioshkamedia.com. Moi, je vous dis à très vite et abonnez-vous pour recevoir nos notifications. Hein. Salut. Matrioshka.